Radio Estable.
Morning Edition from NPR.
Es un sentimiento de la house.
Radio Resonativa Radio.
Que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
J'ai été approché par deux hommes en costume noir. J'ai fini par leur dire que nous pouvions parler, mais uniquement dans un endroit public.
C'est comme ça que le KGB vous approchait en Lettonie, autre époque, mais qui ressurgit avec la liste des anciens espions que beaucoup contestent, dont cette femme que vous entendrez longuement, et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Sibérie, en Indonésie et aussi en Égypte. 18h50, le monde selon Trump. Et Grégory Philips, il est content, le président, forcément, sacré caillou dans la chaussure que le procureur Mueller a finalement enlevé. Et puis 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, décidément, le modèle autoritaire sud-asiatique marque encore un point. Ça se passe en Thaïlande. Nous irons voir avec lui. Avant cela, nous allons entre la Chine et l'Europe. Le monde est vaste. Et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Le président chinois est donc à Paris. Les choses sérieuses avec Emmanuel Macron commencent donc aujourd'hui pour la France, pour l'Europe aussi d'ailleurs. Il n'a échappé à personne que c'est par l'Italie que ce président chinois avait commencé et qu'il y a un rendez-vous pris derrière avec Angela Merkel et avec Jean-Claude Juncker aussi. Bonsoir Jean-François Huchet.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités, spécialiste de l'économie de la Chine contemporaine, notamment. Ça commence sous de bons auspices cette visite, puisqu'il y a un méga contrat qui vient d'être signé avec Airbus, 300 avions ou 290 appareils. On a beaucoup parlé de donnant-donnant entre la Chine et la France, la Chine et l'Europe. C'est ça le donnant-donnant en fait? C'est par là que ça commence hein.
Oui, alors à chaque visite d'État, il y a toujours des grandes annonces.
Évidemment. D'ailleurs, elle était dans l'air, celle-là. Hein.
De contrats, effectivement, qui sont déjà préparés bien longtemps à l'avance. Là, je pense qu'on est dans un contexte un peu particulier où la pression a beaucoup monté avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et il y a effectivement, de la part des Européens, une volonté également de faire monter les enchères pour avoir un peu de réciprocité sur les investissements et sur le commerce. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à cette annonce du côté chinois.
Avec cette phrase, d'ailleurs, dans la foulée d'Emmanuel Macron qui dit « Aucun pays, si puissant soit-il, ne peut redéfinir à lui seul les règles du jeu international », ce qui est aussi une manière de dire à Xi Jinping « Jouez le jeu, c'est le principe normalement de cette visite ». Comment s'est reçu ce genre de phrase à votre avis ?
Mais écoutez, on a senti ces derniers mois une volonté de la part du gouvernement chinois de diminuer un peu des annonces, par exemple sur la politique industrielle technologique, le fameux plan Chine 2025 qui avait beaucoup crispé les autorités américaines puisque c'était un moyen effectivement d'empêcher les entreprises étrangères d'être présentes sur le marché chinois et puis surtout d'avoir une concurrence frontale avec les entreprises et les multinationales américaines ou européennes. Donc, en tous les cas, il n'y a plus cela dans les discours aujourd'hui en Chine, même si sur le terrain, ça continue. On a distribué quand même beaucoup d'argent sur cette politique industrielle. Maintenant, il est sûr que ce qui s'est passé à Washington, cette évolution et le fait d'avoir des négociations très dures avec la Chine est en train de faire bouger les lignes avec le gouvernement chinois.
Alors, deux choses. Puisque vous y faites allusion, qu'est-ce qu'on gagne, nous, en fait, nous, Européens, de cette guerre commerciale intense, effectivement, entre la Chine et les États-Unis? Est-ce qu'on y tire réellement, nous, un marron du feu ou pas?
Alors, il est possible qu'on puisse y gagner tout de même. On a vu, par exemple, la Chine ces dernières semaines évoluer sur des règles qui dataient d'il y a environ 30 ans, par exemple, sur l'impossibilité qu'il y avait d'avoir un contrôle à 100% sur les filiales des grands producteurs automobiles qui sont présents en Chine. On a vu le gouvernement chinois bouger sur cette ligne et c'est un changement qui pourrait effectivement, pour les constructeurs européens, représenter quand même des intérêts très, très importants sur le marché chinois. Maintenant, nous arrivons divisés en Europe comparé aux États-Unis. Nous n'avons pas la même capacité à s'entendre vis-à-vis de la Chine et on voit bien une Chine qui depuis déjà longtemps divise pour mieux régner en Europe et attaque sur les flancs faibles de l'Europe. Alors si en plus un certain nombre de pays comme l'Italie se mettent effectivement à jouer le jeu de la Chine, nous aurons beaucoup de mal effectivement à négocier, mais je pense que l'invitation du président français, qui est une première hein, de la chancelière allemande et de Monsieur Juncker, je pense que c'est une manière de faire front commun aussi.
Effectivement, c'est ce rendez-vous qui a été rajouté en fait avec Angela Merkel et le président de la Commission Jean-Claude Juncker. Est-ce qu'il est, j'y mets des guillemets, parce que est-ce qu'il est imposé à la Chine ou pas?
Alors, je pense qu'il y a une volonté hein, de la part de la France de jouer justement cette unité. Je n'étais pas dans les petits papiers des négociations, donc je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point ça a été, en tous les cas, autorisé ou bienvenu de la part de la Chine. Mais en tous les cas, je pense que du côté français, il y a déjà, de la part du président Macron, déjà depuis sa prise de pouvoir, une volonté de ne pas être naïf à l'égard de la Chine et d'avoir une discussion plus franche. Mais ça veut dire aussi qu'on doit avoir des atouts pour négocier et être en position de force vis-à-vis de la Chine, ce qui n'est pas le cas encore pour les Européens.
Alors, et surtout, effectivement, vous le disiez, parce qu'on arrive tous en ordre dispersé, vous parliez de l'Italie tout à l'heure, effectivement, c'est pas un hasard si Xi Jinping était en Italie d'abord, donc le contrat avec les routes de la soie, c'est l'Italie qui le signe. Du coup, ma question, c'est plutôt, est-ce que le loup n'est pas de toute façon déjà dans la bergerie? On a l'impression qu'on joue tous très séparés, mais nous aussi, d'ailleurs, il y a énormément d'investissements chinois qui sont chez nous. Donc, est-ce que ça y est, je ne sais pas s'il faut dire que le verre est dans le fruit, mais quasiment, en fait.
Alors, il faut, je pense, être faire attention. La Chine est devenue un grand partenaire commercial et également sur le plan des investissements. Ils investissent entre 100 et 120 milliards de dollars par an. Donc, ils sont devenus incontournables. Le fait qu'il y
a l'échelle de l'Europe, hein, on est d'accord.
Non, à l'échelle du monde.
À l'échelle du monde, pardon.
Mais ça fait déjà des chiffres très conséquents. Mais donc, c'est normal de retrouver la Chine, effectivement. Ce qui a peut-être un peu crispé les Européens, c'est l'absence de réciprocité, effectivement, sur un certain nombre d'investissements. Par exemple, l'accès au marché public en Chine, qui est très restreint, ou des barrières non tarifaires. Et puis, surtout, il y a 2 ans, il y a eu des achats d'entreprises de très haute technologie en Allemagne, qui ont beaucoup inquiété les Allemands. Et pour la première fois, on a vu les Allemands, qui ont beaucoup d'intérêt en Chine, plutôt se rapprocher d'une position française pour contrôler, en fait, les investissements chinois. Mais il y a déjà énormément, effectivement, d'investissement dans les pays d'Europe du Sud, dans les Balkans et dans les pays baltes.
Et parce qu'on en a eu besoin, non, à un moment aussi. Enfin, je veux dire, quand on regarde l'Italie aujourd'hui, on rachète de la dette souveraine aussi, on parle de Gênes, on parle de Trieste, il y a le port du Pirée en Grèce. À un moment, on a été content aussi de les voir arriver, ces capitaux chinois, on en a eu besoin, non?
Alors, besoin peut-être pas, c'est un grand mot. En tout cas, certains pays en avaient plus besoin que d'autres. Et c'est vrai que les pays d'Europe du Sud avaient certainement un déficit d'investissement de la part de Bruxelles. C'est aussi, je pense, une grande leçon qu'on doit tirer. C'est-à-dire que les pays qui disent oui aujourd'hui à la Chine auraient besoin que Bruxelles soit peut-être un peu plus présent. Et donc,
n'auraient pas besoin de dire oui à la Chine si Bruxelles était
moins
plus présent.
De dire oui, effectivement. Et c'est vrai qu'on retrouve des investissements dans un certain nombre d'infrastructures. Vous avez cité le port du Pirée à un moment où la Grèce avait énormément besoin d'investissements directs étrangers. Alors maintenant, le gros des investissements se situe quand même au cœur de l'Europe. Hein. Ce sont quand même l'Angleterre, la France et l'Allemagne qui recueillent, et la Hollande qui recueillent le plus d'investissements. Maintenant, l'Italie est le premier grand pays, quelque part, à avoir signé ce mémorandum. Maintenant, il faudra attendre. Vous avez vu que le numéro 2, en tout cas au numéro 1 ou 2 du gouvernement Salvini a été très circonspect, n'a pas participé à toutes les cérémonies. Il y avait un désaccord assez profond dans le gouvernement italien sur cette question.
Beaucoup de désaccords dans le gouvernement italien, de toute façon, à cause de cette coalition, effectivement, dont on n'a pas fini de reparler. Vous disiez qu'on manquait d'atouts. De quoi on manque très exactement, en fait, pour être un vrai partenaire solide face à la Chine?
Une unité, et ça dure depuis très longtemps vis-à-vis de la Chine. La Chine a toujours privilégié des relations bilatérales et a toujours su jouer l'Allemagne contre la France, l'Angleterre contre l'Allemagne, et ça a été le cas depuis la crise de 1989, où elle a fait un retour sur la scène diplomatique en jouant effectivement des différences européennes. Donc c'est vraiment l'unité qui est une politique extérieure commune vis-à-vis de la Chine, d'autant plus que c'est Bruxelles qui gère effectivement les intérêts commerciaux et les intérêts en matière d'investissement direct en Chine. Donc il y a une vraie nécessité pour que l'Europe apparaisse unie vis-à-vis de la Chine.
La Grande-Bretagne était un des grands alliés de la Chine, effectivement, y compris en termes d'investissement. D'ailleurs, tiens, avant d'arriver à cette question, où on situe, nous, la France, si on compare avec nos voisins européens?
Alors, c'est l'Allemagne qui est très loin devant. Ensuite, effectivement, le Royaume-Uni. Et puis, nous arrivons en troisième position en matière de commerce et d'investissement. direct.
Est-ce que ça avait refroidi un peu, ou finalement cet échange d'ailleurs sur Airbus prouve l'inverse, est-ce que ça avait refroidi un peu cette phrase de Bruno Le Maire dont on se souvient encore et qui disait les investissements s'apparentent à du pillage, est-ce que ça avait été très très mal perçu, est-ce qu'on est passé au-delà de ça désormais ou pas?
Oui, je pense qu'on est passé très largement au-delà de ça. C'est vrai que vous avez cité cette période de 2008 au moment de la grande crise économique financière où on a vu une Chine qui avait des entreprises qui avaient énormément d'argent arriver sur le marché européen et faire un peu leur marché et qui en avait profité justement pour par moment démembrer un certain nombre d'entreprises et piller les technologies pour les rapatrier chez elles. Je pense qu'on a passé très largement cette phase parce qu'il y a un contrôle maintenant plus sévère et on a des entreprises chinoises qui sont là pour rester aussi en Europe et bien sûr pour accéder aux technologies mais qui se comportent de manière plus responsable.
Jean-François Huchon, donc on en parlait à l'instant, le Brexit, est-ce que ça change quelque chose pour les Chinois ou est-ce que eux finalement pour eux c'est quasiment quantité négligeable puisque comme vous le disiez effectivement ils sont un peu dans des relations one-to-one ou est-ce que vraiment quelque chose de différent va se passer désormais?
Non, c'est une différence quand même et c'est vrai pour la Chine comme pour les autres investisseurs qui considèrent qu'il y a un espace économique européen et si effectivement selon ce que nous aurons en termes de Brexit, ça pourrait avoir des conséquences effectivement majeures pour les investissements chinois et peut-être entraîner le rapatriement d'un certain nombre d'investissements sur le continent européen.
Que pensez-vous que vont devoir dire collectivement à la fois Juncker, Angela Merkel et Emmanuel Macron dans le rendez-vous là pour le coup qui est prévu demain, puisque comme vous nous le dites, on est tous un peu éparpillés en Europe. Le message à Xi Jinping, ça va être quoi en fait?
La réciprocité en matière d'accès au marché et puis très certainement une ouverture de ce fameux projet Nouvelle Route de la Soie, à savoir que ça ne peut pas être de l'argent qui va servir aux entreprises chinoises qui vont elles-mêmes construire ces infrastructures sans une ouverture véritablement aux partenaires locaux et également peut-être à des partenaires européens qui pourront prendre part à la construction de ces infrastructures.
Est-ce qu'il y a une relation un peu privilégiée, particulière de Xi Jinping avec l'un d'entre nous? Là, on lui déroule un vrai tapis rouge quand même. C'est une vraie visite que celle-ci. Est-ce qu'il y a une accointance particulière entre eux et nous qui peut favoriser nos relations ou pas?
Alors, on a l'antériorité de la reprise des relations diplomatiques avec la Chine en 1964 et les Chinois ont toujours effectivement joué sur cette carte, mais d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a effectivement par rapport à certains autres pays européens cette antériorité. Ceci étant dit, je pense que pour les grands pays européens, il y a effectivement un certain parallélisme et une certaine égalité dans l'importance des relations que peut avoir l'Allemagne ou l'Angleterre ou la France.
On attend donc de voir ce qui va se passer demain. Rendez-vous aujourd'hui, donc la fin de la visite avec Emmanuel Macron. Ils sont en train de parler en ce moment, les deux chefs d'État. Et puis demain, donc Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker pour la suite de cette visite. Merci beaucoup Jean-François Huchet, merci mille fois.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe en Lettonie, où la liste des anciens du KGB rendue publique fait parler tout le pays sous les radars et Amélie Perrier avec un championnat de baffe en Sibérie. C'est extrêmement sérieux, il y a quand même des gens qui sentent mis ferme dans la vie. Le Monde selon Trump et Grégory Philips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Eh ben, il jubile votre président, on le comprend hein.
Oui, avec la fin de l'enquête russe et des investigations menées par le procureur Mueller, le ciel s'éclaircit au-dessus de la Maison-Blanche.
On en parlera ensemble tout à l'heure, 18h55, Le Monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
La Thaïlande, à l'image du sud-est asiatique, aime les dirigeants forts en fait.
Toute l'Asie du sud-est est en train de basculer sur un modèle autoritaire, un peu façon chinoise, comme vous en parliez à l'instant avec votre invité.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis, tiens, avec Andrew Bird. Sisyphus, c'est le titre et c'est le choix de France Inter.
Paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of a morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this suggest? Let the rock roll.
ancient and taciturn. You know I'd rather turn and burn a scale this edifice, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll.
Andrew Bird et Sisyphus. Sisyphus comme Sisyphe, c'est une belle allégorie de l'état du monde quand même que le mythe de Sisyphe. Allez, mettons tout ça sous les radars.
Hello.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimafio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier, en Égypte, il ne fait pas bon être une artiste engagée.
Et les poursuites se sont multipliées ces derniers jours. La première nous raconte RFI contre une célèbre chanteuse là-bas, Shirin Abdelwahab. Alors Shirin Abdelwahab, en tête du hit parade en Égypte, les autorités n'ont pas du tout aimé sa déclaration lors d'un concert à Bahreïn. Dans l'Émirat, elle a dit « Ici, on peut parler librement. En Égypte, celui qui parle est emprisonné. » Et ça n'a pas manqué. Shirin n'a plus le droit de chanter dans son pays. Le syndicat des professionnels de la musique l'a suspendue. Elle n'est pas rentrée en Égypte pour l'instant car elle craint, dit-elle, de mal finir. Et Shirin n'est pas seule. Le célèbre écrivain Alaa Alaswani est également poursuivi. Il est l'auteur du roman L'immeuble Yacoubian, traduit dans de nombreuses langues.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper.
L'immeuble Yacoubian, traduit et adapté au cinéma aujourd'hui. Donc, Alaa Alaswani vit en exil aux États-Unis. La justice lui reproche une offense à l'État dans son dernier livre qui s'appelle « J'ai couru vers le Nil ». Le roman raconte la révolution de 2011, le printemps arabe égyptien. Il a été interdit en Égypte et dans tous les pays arabes, sauf en Tunisie, au Maroc et au Liban. Alaswani est un auteur et chroniqueur engagé, défenseur ardent des valeurs démocratiques dans des articles de journaux en Égypte et à l'étranger, comme dans la Deutsche Welle arabique. Il a d'ailleurs fondé un mouvement d'opposition, Kifaya, ça suffit. Et puis la dernière cible du pouvoir égyptien, bien là, c'est un site internet, Al-Mashat, fermé pour 6 mois et condamné à une forte amende.
Nous partons maintenant dans une bibliothèque unique en son genre.
Et là, oui, on est dans cette bibliothèque. Et si vous entendez le bruit du trafic, eh bien, c'est normal, puisque cette bibliothèque, elle se trouve nichée sous une voie rapide, sous un pont autoroutier à Jakarta, méga capitale de l'Indonésie. Et malgré la pollution, le vacarme de la route, ce parc bibliothèque est devenu très populaire dans le quartier. C'est l'un des rares endroits où les enfants trouvent des livres et des bibliothèques qui font la lecture au micro. Alors voilà, c'est un petit miracle réalisé par les associations du quartier pour transformer cette ancienne décharge, repère des délinquants du coin. Aujourd'hui, plusieurs dizaines d'enfants assistent aux activités, aux lectures, ils prennent des livres. Ces parcs existaient déjà dans la mégapole, on en recense environ 80, mais celui de Colong est bien le premier à être situé dans un tel endroit.
Allez, on termine, Amélie, par un championnat du monde où on n'a pas tout à fait envie de s'inscrire.
Ah bon ? Si vos nerfs sont mis à rude épreuve, pourtant ça pourrait peut-être vous faire du bien pour vous défouler. Ça s'appelle le Slapping Championship et ça vient de se dérouler en Sibérie. C'est le concours mondial de claques, de gifles, de baffes, appelez-les comme vous voulez, voilà ce que ça donne. Ah oui, là, on n'entend pas bien, mais
y a les claques. Beaucoup de distractions en Sibérie.
Ouais, ouais, ouais. Mmh. Les claques sont assez violentes. Et c'est rien d'autre que ça, en fait. Des hommes sur une estrade, face à face, ils se donnent des baffes, l'un après l'autre, jusqu'à ce que l'un des concurrents abandonne ou soit disqualifié. Parce que contrairement à la boxe, on n'a pas le droit d'esquiver, on doit accepter la gifle.
Tendre la joue gauche, donc.
Exactement. Mmh. Le gagnant est reparti avec 30 000 roubles, c'est l'équivalent d'un peu plus de 400 euros se prendre des baffes.
Ah bah, écoutez, formidable. Vraiment formidable. Voilà. Amélie Perry, on en apprend des choses intéressantes
quand
grâce
même,
à vous. Allez, vous revenez demain quand même.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
Et c'est en Lettonie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. La Lettonie, c'est pas tous les jours. Or, il y a quelques semaines, les noms de plus de 4000 anciens agents du KGB ont été publiés sur le site des archives nationales lettonnes. Bonsoir Marielle Vituro.
Bonsoir Fabienne.
Marielle, c'était prévu cette publication, ça a été évidemment très largement débattu d'ailleurs pendant des années, les aveux d'un poète reconnu avaient relancé des débats, mais cette publication ne fait pas l'unanimité, et vous allez nous raconter pourquoi et surtout avec qui.
Vija Beinerte est une personnalité en Lettonie. Cette réalisatrice a tourné quelques-uns des documentaires les plus connus de son pays. Mais aujourd'hui, elle est en procès contre la Lettonie. Comment a-t-elle pu se retrouver sur la liste des agents du KGB ? Sa seule et unique confrontation avec les services de sécurité remonte à 1987. Alors qu'elle nous conte son histoire, Vija Beinerte consulte ses notes. Elle veut en parler avec des mots choisis. Tout s'est déroulé suite au congrès annuel des cinématographes.
I was approached by two men dressed in formal suits. Then I said that we could talk.
J'ai été approchée par deux hommes en costume noir. J'ai fini par leur dire que nous pouvions parler, mais uniquement dans un endroit public.
During the Stalin's regime.
Mon grand-père a été prisonnier politique sous Staline et je connaissais bien leur méthode. Les hommes du KGB voulaient que je leur parle de Yuri Spodniak. À l'époque, ce cinéaste tournait un film avec la BBC sur l'Union soviétique. Je me suis mise dans une colère noire et je leur ai crié un nom catégorique.
La carte d'agent de Vija Beinerte se trouvait dans un beau bâtiment bleu ciel dans le centre de Riga. Il aurait pu passer pour un énième joyau architectural. Mais la maison du coin, comme on l'appelle, a une histoire bien plus sordide. Elle abritait le siège du KGB. 170 000 personnes ont été victimes de la répression soviétique en Lettonie. Pour déporter, arrêter, surveiller ces dizaines de milliers de personnes, il fallait presque tout autant d'agents. Entre 1953, née de la mort de Staline, et 1991, les historiens ont des nombres 24 000. Mais comment une partie des documents du KGB a-t-elle pu être sauvée ? Un épisode rocambolesque pour Sanita Yemberga, auteure d'un documentaire sur le KGB.
Le dernier chef du KGB en Lettonie espérait devenir le chef des nouveaux services secrets lettons. Mais deux jeunes parlementaires très fougueux ont décidé, en accord avec les militaires lettons à l'extérieur, que c'était le moment idéal d'occuper le bâtiment du KGB, car les dossiers allaient être soit brûlés, soit transportés à Moscou. Mais en fait, les dossiers de travail des agents avaient déjà été envoyés à Moscou dès la fin des années 80. La situation, c'est que maintenant, nous avons les noms, mais nous ne savons pas ce que les agents ont fait.
À l'indépendance, seulement quatre grandes figures du KGB ont été jugées. Et deux d'entre elles se sont suicidées. Par deux fois, l'ancienne présidente Vairavik Freiberga a mis son veto à la publication. Que s'est-il donc passé le 4 octobre 2018 quand le Parlement letton autorise la publication des noms ? Lolita Tchigane, députée libérale, a voté pour.
La génération politique montante s'éloigne de plus en plus de cette période. Nous sommes de plus en plus neutres. De toute façon, nous n'avions pas d'autre choix. Nous étions en train de nous empoisonner à petit feu. Certaines personnes ont avoué, se sont justifiées, D'autres ont tout nié. D'autres se sont encore empêtrés dans leurs mensonges. Il fallait crever l'abcès. This was so torturous. So the decision was just to push it out.
Les noms publiés par les archives nationales ne représentent en majorité que les noms des agents actifs avant la chute de l'indépendance, quand la nature du KGB avait bien changé. On trouve de tout dans ce registre, un mélange nocif pour Indolésalité. De 1995 à 2008, il a dirigé le centre de documentation des conséquences du totalitarisme. Le catalogue était sous sa responsabilité.
On mélange le tout avec des agents qui tuaient les partisans laitons et des scientifiques qui ne savaient pas qu'ils étaient dans ce registre. Ce n'est pas honnête. Les naïfs vont croire que les personnes citées dans cette liste vont aller se confesser à une sorte de pape politique. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ceci. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais impossible pour nous de vérifier aujourd'hui. Mais cela passera à la postérité et n'apportera rien de plus.
Après les célébrations du centenaire de la Lettonie en 2018, l'histoire avec un grand H a fait un retour puissant en Lettonie. Les livres d'histoire, les romans historiques ne se sont jamais aussi bien vendus, mais la transmission d'une histoire qui s'éloigne de plus en plus est un véritable défi. Diana Blaire, historienne spécialiste de l'époque soviétique, le remarque.
La première réaction à l'indépendance a été d'exclure cette période de notre mémoire collective. Le bâtiment du KGB parle des répressions et du fait que le régime était totalitaire et oppressif. Et il l'était. Il y a une contradiction entre la mémoire et les livres d'histoire. Les manuels disent que le régime était oppressif et répressif. Les gens disent oui, mais nous vivions normalement. Il n'y avait pas de KGB.
La publication des noms lève enfin un voile de mystère et désamorce toutes les théories du complot qui faisaient florès. Pour autant, comment lire et comprendre ces archives brutes reste complexe. Début mai, les archives nationales vont publier de nouveaux documents, en partie sur le fonctionnement du KGB. C'est maintenant cette histoire qui doit être racontée.
Passionnant reportage, Marielle Vituro, merci beaucoup et à très vite. Allez, la grande arrête à Franklin, Rocksteady sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Step, move your hips with a feeling from side.
Franklin sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Voilà le président.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le monde selon Trump, saison 3, et Grégory Phillips avec un président américain, donc Grégory qui jubile et c'est de bonne guerre au fond. Alors, cette fois c'est fini, Grégory, c'est plié, l'enquête russe, pas de collusion avec la Russie, pas d'obstruction.
Alors, ce n'est pas tout à fait aussi simple, mais il est certain que, comme l'écrit le New York Times ce matin, le gros nuage qui plombait la présidence de Trump vient de se dissiper. Et voici d'ailleurs la première réaction du président américain, c'était hier soir en Floride, juste avant de rentrer à Washington.
So it's complete. Exoneration, no collusion, no obstruction. Thank you very much. Thank you.
Traduction, je suis complètement disculpé, pas de collusion, pas d'obstruction. Alors sur le premier point, c'est effectivement ce que conclut ce procureur spécial Robert Mueller. Sur le deuxième point, l'entrave à la justice, ce n'est pas tout à fait vrai parce que le procureur conclut que certes, il ne peut pas prouver que le président a commis un délit, mais qu'il ne peut pas non plus l'exonérer complètement.
Alors si on se résume quand même, Grégory, cette enquête russe a duré quoi ? 22 mois, presque 2 ans ?
Oui, c'est vrai, énorme enquête de la part du procureur et de ses équipes. Voici quelques chiffres, 500 témoins entendus, autant de fouilles et perquisitions, 34 inculpations, 13 commissions rogatoires à l'étranger. À 183 reprises en 2 ans, Trump a dénoncé une chasse aux sorcières dans des tweets ou des discours. Et depuis mai 2017, on a compté près de 600 000 articles sur Internet et 245 millions d'interactions sur Twitter et Facebook consacrées à cette enquête. C'est évidemment énorme. Et puis Fabienne, on peut même pas compter les milliers d'heures que les chaînes d'info américaines ont consacrées à ce dossier. Tenez, voici une petite compilation.
Breaking news.
Another bombshell out of the White House.
I believe this is the beginning of the end.
I do too.
It's really the beginning of the end.
He may be feeling the walls closing in on him.
All the walls closing
voilà.
In.
Évidemment,
on
montage assez cruel pour les médias, mais savoureux pour la Maison Blanche, car on a entendu pendant 2 ans que cette enquête, c'était le début de la fin pour Trump, un pavé dans la mare, et tout ça pour aboutir à la conclusion qu'il n'y a pas eu de collusion avec la Russie.
Alors, on imagine évidemment jusqu'à quel point cette enquête russe provoque chez vous, et y compris ce matin encore, un flot de réactions.
Oui, alors là aussi une petite compilation. Le fils du président Donald Trump Jr. veut qu'on enquête désormais sur l'enquête, savoir qui a manigancé tout cela. L'ancien patron du FBI, James Comey, celui qui avait été viré par Trump au printemps 2017, tweet une photo assez étonnante de lui dans une forêt, perdu au milieu des arbres, avec un seul commentaire, tellement de questions encore. Et puis la plupart des dirigeants démocrates veulent la publication intégrale de ce rapport Mueller. Vous savez, ce qu'on a lu hier, c'était un condensé de 4 pages, qui plus est, résumé par un homme du président, le ministre de la Justice William Barr, ce qui fait dire ceci à la démocrate Stacey Abrams.
Je pense que c'est comme si c'était ton frère qui résumait ton bulletin de notes à tes parents. C'est très suspect, spécialement quand l'élève en question a 12 retards injustifiés et qu'il a séché 3 cours.
Non, c'est bien.
Voilà, métaphore assez amusante de cet élu de Géorgie. Et puis du côté des soutiens de Trump, évidemment, son avocat Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, était l'invité ce matin de l'émission Fox and Friends. Écoutez, c'est assez savoureux, pardon.
This is a Fox News alert. Mueller findings released. No collusion, no obstruction. Let's bring in Rudy Giuliani, President Donald Trump's attorney.
Good morning.
Cette enquête a duré 2 ans. Elle a coûté près de 40 millions de dollars. Ils ont amassé presque 1,5 million de documents. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, tous les témoins. Et au final, rien. Où est l'obstruction? Peut-être qu'ils devraient présenter leurs excuses maintenant.
Rudy Giuliani, congratulations, thanks for joining us today.
Yeah, thank you very much.
Voilà, à la fin, Fabienne, vous l'entendez, le présentateur de Fox News adresse ses félicitations à Giuliani. Pour le camp Trump, la fin de cette enquête russe, c'est vrai, c'est un triomphe, on peut le dire. Et d'ailleurs, Fabienne, plusieurs de ses supporters s'étaient réunis hier soir face aux grilles de la Maison Blanche, dont Christie, avec forcément sur la tête la casquette Make America Great Again.
Je suis vraiment très heureuse. Ça prouve ce qu'on savait déjà depuis longtemps. Trump est innocent. Il n'y avait pas de collusion avec la Russie, pas d'obstruction à la justice. Ce sont les démocrates qui ont inventé tout ça et il n'y avait aucune preuve. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, Trump va gagner en 2020.
Elle n'a pas forcément tort, notre amie Christie.
Elle n'a pas forcément tort. Après 2 ans d'enquête, c'est un sentiment assez partagé ici à Washington. La fin de cette investigation, c'est une très très bonne nouvelle pour Donald Trump, alors qu'on est à 589 jours de la présidentielle de 2020.
Voilà, je vois que vous lisez votre petit countdown à côté de votre bureau, Grégory. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Grégory. Dans le 19h de Sébastien Paour, vous nous parlerez de l'autre actualité américaine, celle du Golan et Trump qui reconnaît la souveraineté israélienne. Merci.
Le 18-20. Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, tout le monde a les yeux braqués sur la Chine. On en parlait à l'instant puisque Xi Jinping est en visite en France. Mais il n'y a pas que la Chine en Asie. Un peu plus loin du regard médiatique du jour, un véritable modèle autoritaire est en train de se développer dans toute l'Asie du Sud-Est, comme en témoignent les élections en Thaïlande qui ont eu lieu hier. Et c'est votre monde à l'envers.
Alors c'est un peu loin de chez nous, c'est vrai, donc on ne fait pas très attention. On a peut-être tort. Plus de 600 millions de personnes quand même, c'est-à-dire 10 fois la France, vivent dans cette région du monde et l'autoritarisme au penchant militaire est en train d'y devenir la règle. Et le dernier exemple en date, c'est en effet la Thaïlande. Les résultats définitifs des élections d'hier ne sont pas encore connus, mais un fait semble acquis. Le parti de la junte militaire au pouvoir devrait conserver les manettes. L'opposition proteste déjà en parlant d'un vote truqué, marqué par de nombreuses irrégularités. Dans certaines circonscriptions, il y aurait eu plus de bulletins que de votants. Cherchez l'erreur. Mais le Palang Pracharat, c'est le mouvement des militaires, revendique la victoire et de toute façon, son chef, le général Prayut, a verrouillé la Constitution pour conserver les leviers du pouvoir. En résumé, un tiers des députés de la Chambre basse lui suffit, puisque son parti nomme la totalité des 250 sénateurs de la Chambre haute. Alors on ne connaîtra le verdict final que début mai et le roi aura son mot à dire, comme toujours en Thaïlande. Mais le fait est là, après une parenthèse démocratique au début du siècle, la Thaïlande a rebasculé, putsch militaire en 2014, répression de l'opposition et aujourd'hui élection visant à maintenir l'armée au pouvoir. Alors vous allez me dire, c'est une affaire thaïlando-thaïlandaise, sauf que c'est bien davantage, c'est une maison témoin.
Pardon Jean-Marc, vous voulez dire que toute la région est en train d'adopter ce type de régime?
C'est ça, il y a bien quelques exceptions avec du pluralisme et de l'alternance. Je veux parler de la Malaisie, de l'Indonésie qui votent d'ailleurs le mois prochain. Mais partout ailleurs, avec des variantes d'un pays à l'autre, c'est rideau pour la démocratie. Il y a quelques années, on y a cru et aujourd'hui, c'est fini. On va faire un petit inventaire. La Birmanie, il y a 3 ans, lorsque le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi est arrivé au pouvoir, après un demi-siècle de junte militaire, on s'est dit que la page se tournait. 3 ans après, déception, on le sait, la presse reste muselée, les opposants aussi, et les minorités comme les Rohingyas opprimés, les militaires tirent toujours les ficelles. Le Vietnam, l'ouverture à l'économie de marché a permis le décollage de la croissance, mais le parti tient toutes les rênes du pouvoir et il fait pas bon être opposant au Vietnam, en particulier cyberdissident. Le Cambodge, alors là c'est simple, un homme, un seul aux manettes, Hun Sen depuis 34 ans, ancien Khmer Rouge, converti lui aussi au libéralisme économique, il dirige le pays d'une main de fer. Les Philippines, là encore, on y a cru après la chute du dictateur Marcos Hussein, c'était à la fin des années 80. Aujourd'hui, le pays est dirigé par un homme, Rodrigo Duterte, qui a développé un arsenal répressif et des méthodes expéditives. Donc on se résume, quasiment partout en Asie du Sud-Est, la règle est la même. Des pouvoirs forts, autoritaires, militarisés ou paramilitarisés, et qui se revendiquent le plus souvent de l'économie de marché, mais avec une économie de marché très dirigée.
Alors Jean-Marc, pardon de vous le dire comme ça, mais en quoi ça nous concerne?
Alors ça nous concerne en fait pour 2 raisons. La première, c'est que l'avenir économique du monde se joue en grande partie là-bas, entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, c'est là qu'est la croissance, c'est là qu'est la richesse de plus en plus. La seconde est de nature plus politique qu'économique. Le modèle de la démocratie occidentale s'essouffle, tout le monde le dit et en est conscient. Il faut donc surveiller l'émergence de modèles alternatifs. Sauf qu'on regarde peut-être pas au bon endroit, par exemple en se focalisant sur la Hongrie de Orban tout près de chez nous. Et pour de nombreux pays du monde, le vrai modèle attractif pourrait bien être ce système asiatique. Il est plus abouti, plus efficace. On peut d'ailleurs le conceptualiser. C'est un mélange entre la Chine et Singapour, entre communisme et libéralisme, avec toujours 2 points communs. L'autoritarisme politique et une ouverture économique qui a pour but la croissance à tout prix. Avec l'idée que les fruits de la croissance, vous me suivez, peuvent permettre d'éteindre la grogne sociale provoquée par l'autoritarisme politique. Et c'est comme ça que la boucle est bouclée. Et ce modèle de société peut séduire beaucoup de monde.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, on se retrouve demain, le 18-20, la suite c'est Le Téléphone Sonne, et puis juste avant, le journal de Sébastien Paour. Merci de passer la soirée avec nous, ne changez rien.